Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Eh bien, c'est maintenant, j'ai un léger décalage de date. Bonjour Régis.
Oui, bonjour.
Alors,
bonjour Odile.
Cette émission Pour la dignité qui parle des droits humains, et merci de la faire régulièrement sur notre antenne. Alors, on va écouter le sommaire de cette émission aujourd'hui.
Voilà, donc, on l'a avancé d'une semaine, puisque le week-end prochain, je serai à Saint-Brieuc, à l'Assemblée générale d'Amnesty France, avec tous les délégués de tous les groupes, plus les invités des salariés d'Amnesty France. Voilà, c'est le grand rassemblement annuel d'Amnesty à la section française. Et c'est donc le groupe de Saint-Brieuc et les groupes de Bretagne qui nous accueillent. Voilà, c'est pour ça que j'ai avancé cette émission d'une semaine. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'une nouvelle campagne mondiale lancée par Amnesty International qui s'intitule « Mon corps, mes droits ». Ensuite, je vous dirai un petit peu les pétitions qui sont en cours sur le site amnesty.fr et que chacun peut aller, bien sûr, consulter et signer. Un petit résumé, un petit bilan sur le stand que nous avons tenu samedi 21 juin dans le cadre de la campagne Stop Torture. Ensuite, je vous parlerai un petit peu du Nigeria, de la Syrie. Et puis, je vous ferai part d'un interview d'Alain Touraine, qui se trouve dans la chronique du mois de juin, chronique que vous pouvez voir à la médiathèque de Digne. Ensuite, le 20 juin, c'était la journée mondiale des réfugiés, donc Amnesty a fait un communiqué de presse. Je vous en ferai part. Quelques présentations d'albums édités par Talent Haut et Amnesty. Et on finira par des bonnes nouvelles, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles quand même. Voilà le programme.
Merci. Heureusement qu'il y a de bonnes nouvelles, oui, parce que c'est tellement sombre tout ce qui se passe encore dans ce triste monde parfois. On commence avec une chanson.
Voilà, une chanson de Liane Folly. On a tous le droit. Voilà, c'est en hommage à un gamin que j'ai accompagné il y a quelques années et très malade. Voilà.
On a le droit, quand personne nous voit, de pleurer en silence, de regretter son enfance, de se laisser aller en regardant tomber la pluie. On a le droit, quand personne nous croit, de sortir sa violence, tous ces mots qu'on dit pas mais qu'on pense, de parler à Dieu, de parler à qui on veut. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous raison de se poser des questions, d'oser dire non. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous une chance, c'est pas perdu d'avance, la différence. On a le droit, quand rien, plus rien ne va, de chercher son étoile, de jeter l'encre de son journal, de changer sa vie, de quitter l'ennui. Et puis, on a le droit, et qui nous en empêchera de rêver d'un monde un peu moins laid, de rêver d'un monde où on pourrait rien qu'une fois, tous vous et moi, avoir tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix.
Voilà, très belle chanson de Liane Folly. Donc, je vais vous présenter une nouvelle campagne mondiale. C'est-à-dire, quand on dit campagne mondiale, c'est qu'elle concerne tout le mouvement, toutes les sections dans le monde entier. Et cette campagne s'intitule « Mon corps, mes droits ». Alors, dans le monde entier, des hommes et des femmes subissent des contraintes et des discriminations ou sont traités comme des criminels simplement à cause de leur choix concernant leur corps et leur vie. Face à ces atteintes continuelles à leurs droits, Amnesty International lance une nouvelle campagne intitulée « Mon corps, mes droits » pour défendre les droits sexuels et reproductifs de tous. Alors, qu'est-ce qu'on entend par « droits sexuels et reproductifs » Ce sont des droits humains qui nous appartiennent à tous. Voici en quoi ils consistent. Par exemple, prendre des décisions personnelles concernant notre santé, notre corps, notre vie sexuelle et notre identité sexuelle, sans crainte de contraintes ou de poursuites judiciaires. Solliciter et obtenir des informations sur la sexualité et la procréation et avoir accès aux services de santé dans ce domaine et à la contraception. Décider d'avoir ou non des enfants, du moment de les avoir et de leur nombre. Choisir son ou sa partenaire intime, choisir de se marier ou non et à quel moment. Décider du type de famille que l'on veut fonder, ne subir ni discrimination, ni contrainte, ni violence, en étant notamment à l'abri du viol et des autres violences sexuelles, des mutilations génitales féminines, des grossesses forcées, des avortements forcés, de la stérilisation forcée et du mariage forcé. Voilà ce qu'on entend par les droits sexuels et reproductifs. C'est vrai qu'on lance cette campagne parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un recul quasi général sur ces droits. Et je vous citerai quelques chiffres, quelques pourcentages qui montrent un petit peu ce recul. Il y a 40% des femmes en âge de procréer qui vivent dans des pays où l'avortement est interdit, limité ou inaccessible. 47 000 femmes enceintes meurent chaque année des suites des complications liées à un avortement dangereux, et plus de 14 millions d'adolescentes accouchent chaque année, principalement à la suite de relations sexuelles forcées ou d'une grossesse non désirée. Il y a 215 millions de femmes qui n'utilisent pas de contraceptif alors qu'elles souhaitent retarder leur grossesse ou ne plus avoir d'enfants. 215 000, c'est le nombre annuel de cas de mortalité maternelle qui pourraient être évités grâce à la contraception. 60% des adolescents de 4 pays d'Afrique subsaharienne ne savaient pas comment éviter une grossesse et plus d'un tiers ne connaissaient aucun moyen de contraception. 24 pays d'Europe exigent des transgenres qu'ils ou elles se fassent stériliser afin d'obtenir la modification de leur état civil. 76, c'est le nombre de pays dans le monde où les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont illégales. Et parmi ces 76, 36 d'entre eux se trouvent en Afrique. Et puis, sur les exécutions, l'exécution, c'est le châtiment qui est réservé aux personnes déclarées coupables d'homosexualité en Arabie Saoudite, en Iran, en Mauritanie, dans le nord du Nigeria, dans le sud de la Somalie, au Soudan et au Yémen. Voilà. Alors, face à ces chiffres, nous avons décidé, au cours de ces deux prochaines années, la 2014-2015, de demander au gouvernement de cesser de recourir illégitimement au droit pénal pour policer la sexualité et la procréation, et de combattre les discriminations en droit et en pratique, car celles-ci sont source de violations des droits sexuels et reproductifs. Donc on va prendre, comme d'habitude, des cas bien précis sur 7 pays qui couvriront les 5 régions du monde et qui montreront dans quel contexte les États portent atteinte à l'autonomie individuelle des personnes, en particulier à celle des femmes, des filles et des groupes exposés à la discrimination pour d'autres raisons. Voilà. Donc, c'est une campagne. On va demander de faire cesser de recourir au droit pénal de manière discriminatoire, supprimer les obstacles qui empêchent l'accès aux services, à l'éducation, aux informations en matière de santé sexuelle et reproductive, en luttant contre la discrimination en droit et en pratique, et donner à toute personne le pouvoir de revendiquer et d'exercer ses droits pour qu'elle puisse effectuer ses choix libres et éclairés sur sa sexualité et sa vie procréative, exercer ses droits sexuels et reproductifs sans discrimination, violence ni contrainte. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur cette campagne, Mon corps, mes droits, vous allez sur notre site www.amnesty.fr et vous allez sur Mon corps, mes droits. Vous aurez tous les renseignements. À titre d'exemple de ce qu'on a fait déjà, au Maroc, les militants d'Amnesty ont manifesté contre l'article 475 et diverses lois discriminant les femmes en mai 2013, jusqu'à sa modification en janvier 2014. L'article 475 permettait, on en avait déjà parlé sur notre antenne, permettait au violeur d'une mineure d'échapper aux poursuites s'il épousait sa victime. Voilà, donc grâce à notre action, entre autres, on a pu faire modifier cette loi inique. Voilà, donc pendant 2 ans, nous allons travailler sur ces sujets.
Alors, en parlant de mariage forcé, il y a encore beaucoup de pays qui... vous allez pouvoir intervenir même sur des femmes qui sont majeures ou pas ?
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que les femmes qui sont mariées alors qu'elles sont adolescentes, oui. C'est un grave sujet parce que
c'est comme une tradition dans certains pays.
Voilà, mais bon, on respecte les traditions, oui. Mais quand les traditions sont contraires aux droits humains, on va s'y opposer. C'est le cas des mutilations génitales, des mariages forcés, des mariages avec des jeunes filles très très jeunes, quoi, 14 ans, qui ensuite, souvent, il y a des problèmes quand elles accouchent, elles meurent en couche, etc. Donc, c'est vraiment très, très important. Voilà. Donc, c'est un combat qu'on a commencé et qu'on va continuer pendant 2 ans à mener pour que chacun soit libre de son corps et de ses droits. Voilà. Alors, justement... dans les pétitions qui sont en cours en ce moment sur le site, que vous pouvez aller signer en ligne, vous avez justement le cas de Myriam Yaya Ibrahim, vous savez, cette jeune Soudanaise. Nous en avions parlé. Elle a été condamnée à mort pour apostasie, parce qu'elle a un père musulman, mais qui ne l'a pas élevée, puisqu'il est parti, et une mère chrétienne, et elle s'est mariée à un chrétien, et pour ça, elle a été condamnée pour apostasie, condamnée à la peine de mort, et une flagellation pour adultère, parce qu'elle était avec son mari chrétien. Voilà, donc je vous parlais en même temps, la dernière fois, de la prudence d'Amnesty quand elle annonce des faits. Et elle vérifie toujours les sources avant de parler. Et c'est vrai que des fois, on reproche à Amnesty d'être un peu lent sur certaines actions. Mais il s'avère que dans ce cas-là, par exemple, il y a certains journaux, certains médias qui ont dit que cette jeune femme avait été libérée. Or, il n'en était rien. Et quand j'ai su ça, on m'a interpellé. J'ai dit, je suis allé voir sur le site d'Amnesty, je me suis renseigné. Et visiblement, il n'y avait rien. La pétition était toujours en ligne. Et en effet, bon, hélas, c'était pas le cas. Donc il y a certains journalistes qui, pour avoir un scoop, vérifient plus leurs sources, et c'est un problème. Donc voilà. Donc sur Amnesty, nous vérifions au maximum nos sources. Et c'est vrai, quand on dit quelque chose, des fois c'est un peu en retard, mais au moins c'est vérifié et c'est juste, quoi. Voilà. Donc elle est toujours maintenue en détention. Son fils a 20 mois, hein, elle a accouché en prison. Et vous pouvez, si vous ne l'avez pas fait, il y a plus d'un million de signatures déjà, vous pouvez vous joindre à toutes ces personnes qui ont été vraiment indignées de cette terrible situation. Voilà, alors, on s'était mobilisé pour le docteur Thun Aung, prisonnier d'opinion, au Myanmar. Et donc, vous vous souvenez, j'en avais parlé, c'était un des 12 cas de la campagne, 12 personnes en danger. Il appartient à la minorité des Rohingyas, qui est une minorité musulmane en pays bouddhiste et qui est discriminée. Et on lui a... C'est une personnalité, hein, il est médecin. On l'avait chargé de faire une médiation. Et en fait, il a essayé de faire cette médiation et il a été arrêté. Alors, on vient d'apprendre que sa condamnation, il y a eu une remise de peine de 10 ans, moins 10 ans. Donc, il lui resterait plus qu'un an à faire. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais l'action est toujours sur notre site, puisque nous, on demande sa libération immédiate et sans condition, puisqu'on considère que c'est un prisonnier d'opinion qui est détenu uniquement pour avoir dit ses opinions de manière pacifique. Donc la pétition est un petit peu transformée, mais on exige sa libération immédiate, et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, cette réduction de peine, mais il a encore un an à faire, et pour nous, c'est complètement illégal, il faut qu'il soit libéré le plus vite possible. Donc vous pourrez aussi signer cette pétition pour Thun Aung. On a une pétition sur les 200 Roms, alors là ça concerne la France, hein. 200 Roms qui étaient installés rue des Coquetiers à Bobigny. Le tribunal de grande instance doit statuer aujourd'hui, lundi 23 juin, sur l'expulsion. Et on considère, nous, que les expulsions sont illégales s'il n'y a pas une proposition de relogement, hein. Parce qu'on les expulse et puis ils vont s'installer quelques kilomètres plus loin, mais ça perturbe les enfants qui sont obligés de changer d'école et puis ils perdent le peu qu'ils ont. Voilà, donc il y a une pétition à signer pour eux. Vous avez aussi une pétition sur les prisonniers d'opinion de Bolotnaya. Alors Bolotnaya, c'est une place en Russie, et il y a beaucoup de prisonniers qui avaient été... beaucoup de personnes qui avaient été arrêtées sur cette place lors d'une manifestation, et on demande la libération de ces prisonniers. Cette manifestation, c'était le 6 mai 2012, et leur seul crime, c'était d'avoir manifesté pacifiquement. Donc il y a 7 manifestants qui sont en prison et pour lesquels on vous demande d'aller signer pour leur libération. Et puis vous avez une pétition qui concerne notre campagne sur les droits sexuels et reproductifs. Pétition pour le Maghreb, stop aux violences sexuelles. En Algérie et en Tunisie, la loi permet aux violeurs d'éviter la prison en épousant leur victime si elle est âgée de moins de 18 ans. Donc voilà, c'est une pétition qui est en cours. N'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Amnesty pour signer ces pétitions. Alors, samedi dernier, donc, nous étions sur le boulevard Gassendi. nous avions notre stand dans le cadre de la campagne mondiale Stop à la torture. Et donc, nous avons obtenu 56 signatures pour Claudia Medina, qui est une Mexicaine qui a été torturée par les forces gouvernementales. Et elle se bat pour qu'une enquête soit ouverte sur les sévices dont elle a été victime et pour que des examens médicaux adaptés soient réalisés. On a obtenu 58 signatures pour le Nigeria en demandant justice pour Mose Akatugba, qui a été condamné à mort après des aveux obtenus sous la torture. Il avait été arrêté à 16 ans par l'armée nigériane pour vol. Il a été torturé pour avouer, puis a passé 8 ans derrière les barreaux avant d'être condamné à mort. Aucune enquête n'a encore été ouverte sur ces allégations de torture. Vous savez que des aveux obtenus sous la torture ne devraient pas être recevables dans aucun tribunal du monde. Et puis on a obtenu 57 signatures pour demandant la liberté pour Dilorom Abdoukadirova, qui est une prisonnière d'opinion en Ouzbékistan, qui a été torturée en détention et qui purge une peine de 18 ans de réclusion. Torturée et maltraitée pendant la période de détention précédant son procès. Voilà, donc c'était trois cas de personnes qui ont été torturées. Et on a cette campagne mondiale parce qu'on s'est rendu compte que la torture était à nouveau réutilisée de façon systématique dans certains pays, alors qu'elle est bannie au niveau international par tous les grands traités. Donc il y a vraiment une marche arrière là, du monde sur ce grave sujet et qui est une atteinte à la dignité, quels que soient les faits que la personne ait commises. Le torturer, c'est se mettre au rang des barbares. Et donc, voilà. Donc, on a obtenu presque 170 signatures. Et on a fait signer aussi 15 cartes pour la communauté de Bodo. Alors, on est assez content là, parce qu'on vient d'apprendre qu'enfin, Shell est poursuivi pour les fuites dans le delta du Niger, qui concerne justement cette communauté de Bodo, hein, où 15 000 pêcheurs vivaient de la pêche. Et la pollution dans le delta du Niger, notamment par Shell, était telle que ces gens ont été dans la misère la plus totale. Et donc, Shell est poursuivi, enfin, pour ces faits. Et maintenant, bon, on discute par rapport aux indemnités, et parce que Shell propose une somme qui est 10 fois inférieure à celle qui est demandée. Et puis, on voudrait aussi que Shell nettoie le delta du Niger pour qu'enfin les pêcheurs puissent vivre comme ils vivaient avant ces fuites de pétrole. Voilà. Donc maintenant, alors par rapport aux victimes, à la campagne torture, je vous signale que nos amis de l'ACAT, alors l'ACAT, c'est l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort. Donc c'est une association qui est souvent partenaire d'Amnesty International. Nous avons des actions communes. Et donc ils font ce qu'ils appellent la nuit des veilleurs. Donc c'est la nuit du 26 juin. Et ils vont, alors bien sûr, eux, ce sont des chrétiens, donc de plusieurs confessions. Vous avez des catholiques, des protestants, des orthodoxes. Et ils prient pour 10 victimes pendant cette nuit-là. Donc ils se relaient. Et donc ça, c'est, vous voulez, puisque c'est une association chrétienne, ils ont cette action de prier. Et puis en même temps, pour ces 10 victimes de torture, vous avez leur nom, leur cas qui est présenté sur leur site. Hein, donc il faut aller sur le site de l'ACAT, A-C-A-T, et vous allez à nuitdesveilleurs.com et vous pouvez envoyer des messages de soutien à ces personnes. Voilà, je tenais à le dire puisque c'est une association qui lutte avec nous contre la torture et la peine de mort. Voilà, donc maintenant on va peut-être pouvoir passer à un petit morceau de musique de Raphaël.
C'est tout de suite.
Thank you. suis parti d'un bout du monde. J'étais trop grand pour me courber. Parmi les nuages de poussière, juste au bord de la terre. J'ai marché le long des routes, le ventre à l'air dans le ruisseau. Et même que le vent nous écoute, et la pluie va tomber bientôt. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je pense à toi depuis mille ans. Tellement de nuit sous la paupière, tellement de forêts abattues. Même sous la mitraille et le fer, moi je leur ai rien vendu. Et que même dans l'espace Schengen, ils ont pas voulu de ma peau. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je pense à toi depuis mille ans. Pas la croix, pas la manière. Et puis la terre, on y revient. Moi j'ai un orgue de barbarie et je vais pourrir leur pays. C'est pas avec la bombe atomique, c'est pas avec le Tour de France qu'ils me mettront de leur côté quand j'aurai fini ma croissance. Ce que je fais là, moi, je sais pas, je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je pense à toi depuis mille ans.
Continue avec l'émission Pour la dignité sur les droits humains avec Régis Coulanges.
Voilà, alors vous pouvez trouver dans la chronique du mois de juin l'édito de Geneviève Garrigos, qui est la présidente d'Amnesty France, qui est une bénévole bien sûr. Et voilà ce qu'elle nous dit, parlant du Nigeria. La mobilisation internationale pour retrouver et libérer plus de 200 jeunes filles enlevées à Chibok il y a plus d'un mois, a eu raison de l'inertie du président nigérian, Goodluck Jonathan. Réunis à l'Élysée, les présidents du Nigeria, du Cameroun, du Niger, du Tchad et du Bénin, ainsi que des représentants des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne, ont déclaré la guerre à Boko Haram, cette secte de mouvance salafiste qui revendique la création d'un État islamique dans le nord du Nigeria. Ils ont convenu d'un plan global qui doit mettre un terme aux exactions commises par les groupes armés et protéger les civils. Ils se sont engagés à protéger les jeunes filles des violences, des mariages forcés et de l'esclavage. Depuis le début de l'année, l'intensification du conflit qui oppose Boko Haram au gouvernement dans le nord-est du pays a déjà fait plus de 2000 morts, majoritairement des civils. Mais le nombre et l'ampleur des atrocités perpétrées par le groupe armé ne peuvent justifier la brutalité des représailles des forces nigérianes de sécurité. Des centaines de personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec des groupes armés sont illégalement maintenues en détention sous la responsabilité des militaires et le gouvernement refuse l'accès à leurs avocats. La majorité des personnes incarcérées sont détenues sans avoir été inculpées et beaucoup ont été exécutées de manière extrajudiciaire. Le 14 mars, des membres armés de Boko Haram ont attaqué la caserne de Jiwa à Maiduguri où ils auraient libéré plusieurs centaines de prisonniers. Lorsque l'armée a repris le contrôle, plus de 600 personnes, pour la plupart des détenus non armés ayant été recapturés, ont été exécutées sommairement. Les policiers et les militaires ont de plus en plus recours à la torture pour arracher des informations et des aveux, punir et épuiser les détenus. Passage à tabac, blessures par balles, arrachage des ongles et des dents, viols et violences sexuelles. La majorité des plaintes ne donnent pas lieu à enquête et des aveux extorqués sont utilisés lors de procès. Aujourd'hui, la communauté internationale s'attaque à la menace terroriste. Mais combien de temps encore va-t-elle fermer les yeux sur les violations graves commises par le gouvernement nigérian ? Quand va-t-elle ouvrir des enquêtes indépendantes sur les crimes de guerre et contre l'humanité perpétrés par toutes les parties au conflit interne ? François Hollande a déclaré que Boko Haram a une stratégie anti-civilisationnelle de déstabilisation du Nigeria, mais aussi de destruction des principes fondamentaux de la dignité humaine. La torture, les exécutions extrajudiciaires, les détentions arbitraires sont des atteintes à ces principes fondamentaux. Rien ne peut les justifier. Leur pratique ne contribue pas à lutter contre la terreur, elle l'alimente. Voilà, je vous ai lu cet édito parce que je pense que c'est important, c'est capital de lutter contre le terrorisme, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a des terrorismes d'État qui font justement le nid des terrorismes, de tous les terrorismes, et qu'il faut lutter et mettre les droits humains au centre de toutes les relations internationales, que les gouvernements exigent les uns des autres le respect absolu de la dignité humaine, parce qu'on ne peut pas combattre le terrorisme en utilisant les mêmes pratiques que les terroristes, parce que sinon on devient aussi un État terroriste, et c'est aussi grave. Voilà, donc c'est un édito qui me semble important, et je pense que tous les problèmes internationaux de réfugiés, etc., seraient fortement diminués si, dans les relations internationales, on mettait le respect de la dignité humaine au cœur de toutes les négociations et qu'on ne fasse pas de compromissions avec ce respect que chaque homme doit avoir. Voilà, donc vous avez cet édito dans la chronique du mois de juin. Et puis, vous avez un dossier très important. Il y a toujours un dossier important dans chaque numéro. Ce mois-ci, c'est sur la Syrie. Et le titre, c'est « L'effroyable album de César ». Alors, César, ce n'est pas son vrai nom. C'est quelqu'un qui était en Syrie. C'était un maillon de l'organisation méthodique de la torture que le régime de Bachar al-Assad a fait subir à des dizaines de milliers de civils syriens, même avant la révolution, avant les événements, et qui continue ensuite. Donc cet homme qui se fait appeler César, pour se protéger bien sûr, a photographié des milliers de corps de détenus morts de faim ou de torture. Il a fait ça, c'était son travail, c'était ce qu'on lui demandait. Donc il a fait 54 000 photos qui concernent environ 11 000 personnes torturées. Il a fait beaucoup plus de ces photos, mais ce sont 54 000 photos qui sont sorties de Syrie grâce à lui. Donc on voit des images terribles. Et alors comment ça s'est passé? Au printemps 2011, c'est un ami proche de César prend conscience de l'importance du travail qu'il a fait. Il connaît les membres du mouvement national syrien, un groupe islamiste modéré qui fait partie de la coalition nationale syrienne. C'est le principal rassemblement à l'opposition au régime de Bachar al-Assad. Par son intermédiaire, il contacte César. Et César voulait faire défection, mais c'est pas facile de faire défection en Syrie. Et donc, il a commencé par transmettre ses photos pour collecter des preuves de la machine à torturer du régime. Il a accepté donc de transférer ses photos, au risque de sa vie, bien sûr. Et ils ont constitué un comité chargé de recueillir ces photos, de les sauvegarder et de les faire sortir du pays. Donc c'est sorti caché dans des clés USB, caché dans les vêtements, les chaussures, les ceintures, etc. Et puis, bon, il a fait ça, bien sûr, au risque de sa vie. Et en fait, il a été aussi sorti de Syrie, ce fameux César là, qui se cache maintenant. Parce qu'il risque tous les jours sa vie. Hein. Et ces photos donc, qu'il a pu nous transmettre vont dans le sens que qu'Amnesty avait déjà écrit dans son rapport. Et donc Amnesty a apporté un soutien logistique aux enquêteurs et aux agents qui ont exfiltré César et lui ont permis de s'enfuir de Syrie. Il a été accueilli le 13 mars dernier dans les locaux parisiens. On a présenté une conférence de presse pour présenter ce fameux rapport César. Donc c'est un rapport qui est essentiellement photographique. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de torture, mais quand on voit les photos, ça choque davantage, quoi. Et on ne peut que bannir ce genre d'utilisation qui est en fait un crime contre l'humanité de la part du régime syrien. Cette conférence ensuite a été reconduite à l'Institut du Monde Arabe, avec en présence des personnes qui ont permis l'exfiltration de ce fameux César. Les spécialistes en droit international l'ont rencontré. On a analysé les photos et ces photos n'ont pas été falsifiées après examen par des experts. C'est très difficile pour les familles, hein, parce qu'honorer la mémoire de ces morts, il faut s'en souvenir. Il ne faut pas qu'ils disparaissent. Et donc, c'est difficile, mais il faudrait qu'elles portent plainte. Mais c'est également difficile parce qu'elles sont... Les familles sont toujours dans le pays et porter plainte, c'est peut-être se condamner à mort. Donc en fait, il y a des crimes contre l'humanité de la part du régime syrien et il faudra qu'un jour Bachar al-Assad se retrouve devant la Cour pénale internationale pour l'ensemble de ces crimes qui sont des atteintes innommables à la dignité humaine. Voilà. Et on a aussi... Donc vous avez des explications sur la Syrie, sur ses comportements. Vous avez un article de Donatella Rovera, qui est la chercheuse d'Amnesty, qui était en charge de la crise en Syrie, qui était déjà rentrée dans le pays, mais qui nous dit là que c'est plus possible du tout maintenant d'y aller. Et donc la vérification devient de plus en plus compliquée. Donc on a des informations par les gens qui se sont enfuis de Syrie, par des contacts qu'on avait déjà à l'intérieur, mais c'est difficile en fait de vérifier les récits, parce que même si les témoignages sont honnêtes, souvent ils reflètent une perception et pas forcément la réalité. Donc voilà, tant que on pourra pas envoyer de chercheurs à nouveau en Syrie, on aura des vérifications très difficiles à faire sur les témoignages que l'on reçoit, et c'est pourtant important de les vérifier, d'autant plus que ce n'est pas les bons contre les méchants, hein. Il y a des méchants des deux côtés dans cette crise en Syrie. Voilà, vous voyez à quel point notre campagne Stop Torture est importante et elle est aussi d'actualité. Alors sur la même chronique, vous avez une interview d'Alain Touraine, qui est un sociologue, penseur majeur des mouvements sociaux. Il attribue désormais un rôle primordial au sujet défini comme l'individu conscient de sa liberté et de ses capacités de résistance. Face au capitalisme financier, il fixe un nouvel horizon de lutte, l'éthique et les droits fondamentaux universels. Voilà, alors c'est intéressant. Donc il fait une analyse un petit peu en sociologue, de ces nouvelles déserts, des périodicités que l'on vit. Alors pour lui, le 19e siècle, c'était celui de la vie, de la croyance au progrès et à la science, malgré la persistance de la misère ouvrière et paysanne. Le 20e siècle, qui d'après lui commence en 14 et finit en 89 avec la chute du mur de Berlin, c'est celui des massacres de masse. On en parle beaucoup en ce moment à l'évocation de la guerre de 14. Il y a eu deux guerres mondiales, la barbarie nazie, les régimes totalitaires issus des révolutions russes et chinoises. Des millions de morts violentes charrient ce 20e siècle. Et puis, d'après lui, le 21e siècle est marqué, côté occidental, par l'effacement du capitalisme industriel au profit du capitalisme financier spéculatif globalisé. Donc les acteurs sociaux sont devenus impuissants, la recherche effrénée du profit tous azimuts est au zénith. Nous sommes enfermés dans les geôles de modernisateurs voyous. J'emploie ce terme à dessein comme on parle d'État voyou. Voilà, donc en 89, c'est aussi l'année des manifestations de la place Tiananmen. Les dictatures latino-américaines se sont effondrées. L'apartheid est aboli en Afrique du Sud et en 91, plus récemment, les Arabes ont allumé une flamme d'espoir vacillante. Donc il y a quand même quelques motifs d'espérer. Et donc, pour lui, sa conclusion, c'est que le plus important des droits est celui d'être un acteur. Ce que Hannah Arendt exprimait par une jolie formule définissant les êtres humains par leur droit d'avoir des droits. Dans le même esprit, il affirme que les droits sont au-dessus des lois et qu'il est nécessaire de rassembler toutes les forces autour de la défense des droits fondamentaux. Ce que suggère la revendication partout exprimée, je refuse d'être humilié, je veux être respecté. Voilà, c'est en fait l'objectif d'Amnesty International et puis de cette émission qui s'appelle « Pour la dignité ». Voilà, c'est un combat pour la dignité. Et d'ailleurs, dans la devise républicaine, lui, il aimerait, Alain Touraine, il aimerait volontiers que la devise devienne « Liberté, égalité, dignité ». Voilà, donc c'est une interview qui est très intéressante. Il parle aussi des problèmes d'universalisme des droits et de différences culturelles, hein, ce qu'on évoquait en début d'émission. Donc, pour lui, penser global, c'est penser en même temps l'universalité et la diversité. Diversité des cultures, des histoires, des voies de modernisation. Une progression de concert est possible. Mais lorsqu'il y a un conflit entre universalisme des droits et diversité des mœurs, l'universalisme des droits doit l'emporter. C'est aussi ce qu'on pense à Amnesty International. Quand on a des coutumes locales qui vont à l'encontre des droits humains, ce sont les droits humains qui doivent l'emporter. Voilà. Donc on est souvent en synergie avec ce penseur. Voilà, donc il pense que les dégâts occasionnés par la finance spéculative, qui détruit nos institutions sociales et nos valeurs culturelles, vont susciter une prise de conscience. Et en réaction, la création d'une nouvelle vie sociale reposant sur l'affirmation de la défense des droits universels de l'homme. Donc pour lui, c'est le combat que mène Amnesty et d'autres est très important et c'est une réaction aux dégâts occasionnés par ce tout financier qui détruit des institutions et des personnes. Voilà, donc il va bientôt faire paraître un ouvrage qui parlera de ces thèmes en 2015 et qui s'intitulera « Nous, sujets humains ». Donc voilà, ce sera, je pense, un livre sur la dignité humaine et sur des voies d'avenir pour notre monde commandé en ce moment par la finance internationale, comme nous apercevons régulièrement. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler de la Journée mondiale des réfugiés. C'était le 20 juin dernier. Et Amnesty International a publié un communiqué de presse. Nous exhortons les membres du Conseil de sécurité à prendre des mesures décisives pour protéger les civils et empêcher que des millions de citoyens ne soient contraints de quitter leur foyer. Pour nous, la Journée mondiale des réfugiés, c'est le constat. C'est une année d'échec pour le Conseil de sécurité de l'ONU. En effet, les réponses inefficaces ou tardives du Conseil de sécurité ou du secrétariat de l'ONU aux conflits qui font rage en Syrie, dans le Soudan du Sud, en République centrafricaine et en Irak, ont laissé la violence gagner du terrain et dévaster d'innombrables communautés, avant que parfois une action digne de ce nom ne soit enfin mise en œuvre. L'apathie, les alliances politiques et la stratégie ne doivent plus reléguer les préoccupations des droits humains au second plan lorsqu'il s'agit de prendre des décisions au Conseil de sécurité. Le fait que le Conseil de sécurité ait manqué à plusieurs reprises l'occasion de soumettre la situation en Syrie à la Cour pénale internationale et l'absence d'obligation de rendre des comptes qui en aient suivi ont contribué à une crise majeure de déplacement. Parallèlement, les pays qui ont bloqué toute intervention pertinente en Syrie sont ceux qui contribuent le moins à la crise mondiale des réfugiés. En effet, la Russie et la Chine n'ont pas réinstallé un seul réfugié sur leur territoire en 2013 et ce sont eux qui se sont opposés à une intervention pertinente de l'ONU. Tout aussi désolantes sont leurs contributions à l'appel lancé par l'ONU pour la Syrie, qui a réuni les fonds les plus importants de toute l'histoire des Nations Unies. La Russie a contribué à hauteur de 0,3% à ces fonds en 2013 et de 0,1% en 2014, tandis que la Chine a contribué à hauteur de 0,1% en 2013 et 0,4% en 2014, ce qui est vraiment insignifiant. Tandis que les diplomates débattent de motions de procédure, des maisons sont incendiées, érasées et des familles contraintes de prendre la fuite. Donc vous voyez tous les problèmes qu'on a de réfugiés, il ne suffit pas de les renvoyer. C'est au niveau politique que ça doit se traiter. Et voilà, il faut absolument que le Conseil de sécurité fasse quelque chose et que les Russes ne soient plus bloqués. Voilà. Les pays en développement paient le plus lourd tribut à la crise. Malgré leur opposition économique relativement défavorisée, les pays en développement paient le plus lourd tribut à la crise. L'Iran, la Jordanie, le Liban, la Turquie et le Pakistan sont les cinq pays qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés. En 2013, trois d'entre eux, la Jordanie, le Liban et la Turquie, ont enregistré au total 1 524 979 réfugiés originaires de Syrie. Par contraste, les États-Unis n'ont réinstallé sur leur territoire que 36 réfugiés syriens en 2013. Les 28 États de l'Union européenne se sont engagés à accueillir 30 498 Syriens. La vaste majorité, 25 500, sera réinstallée en Allemagne, donc très peu dans les autres pays. En 2013, 435 000 personnes ont demandé l'asile à l'Union européenne, qui l'a accordé à 136 000 personnes seulement. Les prétendus leaders mondiaux ont un retard considérable par rapport aux pays en développement lorsqu'il s'agit de prendre en charge la crise mondiale des réfugiés. Au regard des avantages économiques des pays riches sur les pays pauvres, il est d'autant plus choquant de les voir esquiver leurs responsabilités d'une manière qui frise l'absurde en matière de protection des réfugiés. Il faut mettre un terme à cette situation. Les réfugiés et les migrants, victimes de graves violations des droits humains, malgré le nombre modeste de réfugiés et de demandeurs d'asile qu'ils doivent prendre en charge, les pays développés les soumettent bien souvent à des atteintes aux droits humains. Les réfugiés et les migrants qui arrivent aux frontières de la Grèce en quête de protection, de sécurité et d'un avenir meilleur en Europe sont fréquemment en butte à des violences et à des actes d'intimidation. Nous avons recensé plusieurs cas de personnes qui ont été entièrement déshabillées, se sont dérobées leurs affaires et ont été repoussées de l'autre côté de la frontière turque sous la menace d'une arme. Des mauvais traitements ne sont jamais excusables, mais il est particulièrement odieux de voir des pays faire subir aux réfugiés et demandeurs d'asile des traitements qu'ils ne pourraient même pas imaginer infliger à leurs concitoyens. L'Australie, qui compte l'un des plus faibles densités de population au monde, bafoue également la loi, dissimulant les graves violations des droits humains dont sont victimes les réfugiés et les demandeurs d'asile dans ses centres de traitement situés hors de son territoire, sur les îles de Manus et Nauru, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils sont détenus dans des camps surpeuplés et où ils souffrent de la chaleur étouffante, sans ombre ni abri, et manquent d'eau et de soins médicaux. Beaucoup ont risqué leur vie pour atteindre l'Australie. Il est temps que les gouvernements des pays développés cessent de penser en termes de « nous » et « eux ». Les réfugiés et demandeurs d'asile ont souvent enduré de terribles épreuves. Ils méritent d'être protégés et traités avec humanité et dignité. On en revient encore à la dignité humaine. Voilà, donc c'est un constat d'échec pour le Conseil de sécurité qui a été dressé à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin 2014. Voilà, alors maintenant, je vais vous parler d'une maison d'édition. Une maison d'édition qui s'appelle Talent Haut et qui est dirigée, par une éditrice qui s'appelle Mélanie Decourt. Voilà, Talent Haut vole au secours de la littérature jeunesse non sexiste. Donc il y a un article à nouveau sur la chronique qui parle de cette maison d'édition qui se bat pour l'égalité. Voilà, vous verrez donc cet article de Mélanie Decourt sur la chronique. Et je vous parle d'elle parce que avec sa maison d'édition, nous coéditons de nombreux albums pour enfants qui parlent donc des droits humains. Hein? Ce sont des livres pour les filles et pour les garçons où les héros peuvent être des héroïnes, où les mamans sont des femmes d'aujourd'hui et les hommes des papas modernes, où les filles ne sont pas au bois dormant et les garçons ne sont pas les seuls à chasser le dragon. Voilà. C'est un peu des livres qui traitent de façon poétique de stéréotypes qui souvent entraînent des discriminations qui peuvent être graves par la suite. Donc
c'est une maison d'édition vraiment spécialisée
dans
ce combat.
Ils se sont spécialisés dans ce combat et ils organisent d'ailleurs un concours chaque année et la classe gagnante, donc c'est un concours dans les écoles, et la classe gagnante voit son histoire éditée par Talent Haut. Alors par exemple, j'ai dans les mains l'histoire de genre, ça s'appelle, c'est écrit par la classe gagnante du concours Lire Ego 2010. C'est illustré par Peggy Neal. Et voilà, donc c'est sous forme amusante, donc c'est écrit par les écoliers. Hein. Je vous lis par exemple la première page. Moi, je suis du genre de celle qui pourrait être une princesse charmante, qui viendrait réveiller un beau au bois dormant. Je capturerai sur le chemin une vilaine dragonne qui se transformerait en un beau crapaud. Voilà. Et vous avez de très belles illustrations, très poétiques. Voilà.
Donc les dessins, par contre, ne sont pas faits par les enfants.
Alors là, les dessins, non. Ils sont illustrés par Peggy Neal. Mmh. Voilà. Alors, par exemple, je vous en note un autre, là. Voilà. Celui-là, il s'écrit à vol d'oiseau. Il est écrit par la classe gagnante du concours Lire Ego de 2011 et illustré par Mayana Itoise. Donc, ce sont les enfants qui ont écrit l'histoire et ils ont gagné le concours. Donc, ils ont vu leur histoire éditée par Talent Haut. Alors là, je vous lis un petit peu. Donc, ça s'écrit à vol d'oiseau. Un petit garçon ouvrit la fenêtre de sa chambre et cria « Ce n'est pas juste, on m'a encore offert des voitures. Je voulais des poupées, j'en ai assez. » Un oiseau magique qui passait par là lui dit « Viens sur mon dos. » Il s'envole, il passe près d'un village et une petite fille qui crie par la fenêtre « Ce n'est pas juste, j'aime bien jouer à la bagarre, mais on me gronde en me disant que ce n'est pas joli pour une fille, j'en ai assez. » Et l'oiseau lui dit « Viens sur mon dos. » Et ainsi de suite, l'oiseau récolte un certain nombre de personnages comme ça. Par exemple, il y a une dame, là. Il part dans d'autres pays. Hein, il survole un autre pays. Puis il entend une grand-mère, là. Il n'y a pas que des enfants. Il entend une grand-mère qui crie « Toute ma vie, j'ai dû m'occuper des enfants. Je voulais être mécanicienne ou maçon, ou conduire de gros camions. On me l'a interdit. J'en ai assez. » Et la grand-mère, elle se retrouve aussi sur le dos de l'oiseau. Voilà, et donc je ne vous dis pas la fin, il faudra,
ben non,
il faudra lire l'histoire.
Hein, on a surtout envie de se procurer ces livres. Où est-ce qu'on les trouve alors?
Alors vous pouvez, vous pouvez les avoir par l'intermédiaire d'Amnesty International puisqu'on les coédite. Donc vous allez sur le site et vous verrez, il y a une rubrique acheter, livres pour enfants. Et sinon, le groupe de Digne en a quelques exemplaires aussi. Donc si vous êtes sur Digne, vous pouvez nous contacter. Et par l'intermédiaire de la radio, par exemple. Et puis, voilà. On se fera un plaisir de vous les apporter. Là, voilà, Drôle de planète. Celui-là, il a été écrit par la classe gagnante du concours Lire Ego 2012. Alors, avec des dessins très rigolos. Et donc, c'est des enfants qui sont sur une autre planète et qui, en fait, étudient la Terre. Et donc, voilà, jour d'école pour les petits glatifusiens. À l'ordre du jour, l'être humain, question du professeur, de quelle manière distingue-t-on les filles des garçons? On observe, on étudie, décortique, analyse, et les premières réponses fusent. Voilà, donc ils nous observent, ils essayent de savoir comment on peut déterminer les différences entre un garçon et une fille. Alors il y en a un qui dit, les garçons ont de petits poils sur la tête, et puis celles qu'on appelle les filles ont des plus longs. Et puis, il y a un élève qui dit « Non, regardez celui-là, comme ses poils sont longs. » Et lui, sur sa tête, il n'a pas de poils du tout. Voilà. Et voilà. Donc, Drôle de planète, ça s'appelle. Vous avez une histoire aussi. Alors là, c'est plus le concours...
Talent Haut.
de Talent Haut, mais c'est toujours l'édition Talent Haut. Hein. Mais c'est plus dans le cadre du concours, donc ce n'est pas écrit par une classe scolaire, c'est écrit par un auteur et illustré. Voilà, c'est, ce sont de petits livres très bien illustrés. Donc là, c'est l'histoire. Loin, loin, il y a longtemps, un roi et une reine venaient d'avoir un garçon, mais le bébé était petit, si petit, qu'ils ne voulurent pas le garder. Ils le déposèrent dans un dé à coudre d'or qu'ils confièrent au courant de la rivière.
Je vais acheter celui-là. Ah. Je me rappelle l'histoire, voilà.
Voilà. Un beau matin, le dé vient s'échouer près d'une grotte habitée par deux géants. Voilà, c'est un conte subtil et délicat qui aborde des questions aussi simples et complexes que le droit de s'aimer, de choisir, d'être libre, des droits donc, qui sont au cœur de l'action d'Amnesty International. Vous en avez un autre aussi qui s'appelle « Samia et les fantômes », qui a de très belles illustrations également. C'est de Clémentine Beauvais, illustrée par Sylvie Serpix. Voilà. Quand elle sera grande, je vous lis la première page, oui. Quand elle sera grande, Samia sera fantôme, comme sa maman, sa tante et sa grand-mère. Dans la famille, on est fantôme de mère en fille. C'est l'oncle qui veut des femmes fantômes autour de lui. C'est important d'être un fantôme, leur a-t-il dit. C'est respecter son père, son frère et son mari. Voilà. Les lois éditées par les hommes pour les fillettes et les femmes. Le petit frère Salman n'est pas de cet avis. Moi, je trouve que les fantômes, ce n'est pas joli. Et puis, quand tu seras un fantôme, on ne pourra plus grimper aux arbres. Parce que ce n'est pas pratique. Hein. Voilà, donc pareil, je ne vais pas vous lire la suite. Hein. Mais les dessins sont remarquables. Et puis, tous ces livres font réfléchir sur la discrimination. Et de manière positive. Voilà, encore un livre édité par Amnesty International et Talent Haut qui s'appelle Les souliers écarlates. Voilà, c'est un conte de Gaël Aymon, illustré par Nancy Ribard. Un seigneur avait épousé une jeune fille telle qu'il l'avait souhaitée, aussi belle qu'il était grand, aussi fragile qu'il était fort. Plus elle était fragile, plus il se sentait fort. Il se mit donc à la malmener. Mais la jeune fille, qui était bien plus qu'une poupée, lui échappait chaque nuit grâce à des souliers magiques. Un soir, pourtant, son époux découvrit son secret. Voilà, ça s'appelle « Les souliers écarlates » et c'est publié chez Talent Haut et Amnesty International en coédition. Vous pouvez vous les procurer auprès du groupe d'Amnesty ou sur le site d'amnesty.fr ou dans, bien sûr, les librairies de la région. Voilà.
Et vous les vendez, j'imagine, dans les écoles aussi
Alors, on les a présentés au Salon du Livre Jeunesse au début du mois de juin à la médiathèque de Digne. Et puis, on les propose, bien sûr, à la vente. Nous, on en prend quelques-uns pour les montrer aussi aux instituteurs et aux institutrices. Et voilà, parce que c'est des livres qui peuvent faire réfléchir, peuvent occasionner des débats en classe. C'est important parce que souvent, c'est la source de discrimination entre les garçons et les filles.
L'esprit se forme très, très tôt.
L'esprit se forme très tôt. Voilà, donc on est content de les montrer et puis éventuellement de les vendre aussi. Mais ce qui est important, c'est de les diffuser. Pour nous, ce qui est important, c'est de les diffuser. On les montre aussi régulièrement à l'ancienne école normale qui s'est appelée les UFM, puis maintenant l'ESPE. Donc on les montre aux étudiants qui seront les institutrices et instituteurs de demain. Voilà, donc je vous avais dit qu'on allait
terminer par des bonnes nouvelles.
Par des bonnes nouvelles. Si je les retrouve.
Bon, c'est déjà une bonne nouvelle de savoir qu'il y a des très jolis livres qui existent pour lutter contre le sexisme.
Voilà. Alors, dans les bonnes nouvelles, donc je vous ai déjà parlé du prisonnier d'opinion Thun Aung au Myanmar qui a bénéficié d'une remise de peine. Donc, on lui a enlevé 10 ans à sa condamnation injuste. Hein. Donc, à n'en pas douter, c'est grâce à l'action de tous les gens qui ont rejoint l'Amnesty International et qui ont signé cette pétition, hein, soit par écrit, soit par le site. Pour la France, une bonne nouvelle, c'est une expulsion forcée de Rome qui se retrouve devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc la France est à nouveau amenée à rendre des comptes sur sa politique d'expulsion de campements informels. Saisie en avril 2013, la Cour européenne des droits de l'homme doit examiner une requête relative à l'expulsion des familles roms d'un campement à la Courneuve du 12 avril 2013. La France a déjà fait l'objet d'une condamnation par la Cour le 17 octobre 2013 dans une affaire similaire. Dans un mois, une autre bonne nouvelle, Mikhail Kosenko, qui est un prisonnier d'opinion de la place Bolotnaya en Russie, pourrait enfin voir arriver la fin de son calvaire et de 2 ans de détention totalement arbitraire. Voilà, donc là c'est un espoir de libération. Il y a un point d'interrogation parce que ce n'est pas tout à fait sûr. Au Nigeria, des habitants d'un bidonville obtiennent justice devant un tribunal international. La décision rendue le 11 juin 2014 par la CEDAO à l'encontre des forces de sécurité nigérianes constitue une victoire contre l'impunité et un triomphe pour la justice. Le 12 octobre 2009, des membres des forces de sécurité nigérianes avaient ouvert le feu sur des habitants du bidonville de Bundu, à Port-Harcourt, qui manifestaient contre des expulsions. Ces répressions avaient fait un mort et une douzaine de blessés et n'avaient pas fait l'objet d'enquête. 10 résidents de ce bidonville avaient porté plainte. Et donc voilà, ils viennent d'obtenir justice. Hein, on parlait du Nigeria et de son gouvernement. Voilà une illustration. Et puis, le 3 juin 2014, premier anniversaire de l'ouverture à la signature du traité sur le commerce des armes, une dizaine d'États rapprochent encore le jour de l'entrée en vigueur du traité en déposant leur instrument de ratification aux Nations Unies. Alors Amnesty avait été très actif pour que soit rédigé un traité sur le commerce des armes. On avait fait à l'époque 1 million de signatures photos. C'était la première signature pétition photo, du monde. Et on avait remis toutes ces millions de visages à l'ONU. Et l'ONU avait donc rédigé, à la demande donc de la société civile mondiale, un traité sur le commerce des armes afin que les armes ne puissent plus servir à tirer contre la population, contre les civils, et puis réglementer ce commerce pour ne plus vendre des armes à des tyrans, hein. Faire un contrôle de tout ce qui est vendu. Donc, pour que ce traité rentre en application, il faut qu'un certain nombre de pays le ratifient. Et donc, on s'approche. Hein, on pense que bientôt, on aura assez de pays qui ont ratifié pour que le traité rentre en vigueur. C'est toujours très long, ces textes internationaux, mais ça avance. Voilà. Donc, ça fait pour nous partie des bonnes nouvelles. Hein. C'est aussi une bonne nouvelle. On a recueilli pour Yolanda O'Kelly, qui est au Guatemala, hein. On a recueilli 72 564 signatures qu'on a remis le 19 juin à l'ambassade de Guatemala. Alors, ces 72 564 signatures, c'est en France. Hein. C'est la section française qui les a recueillies, qui les amène à l'ambassade. Et ça se fait aussi dans les autres pays. Hein. Des signatures sont apportées aux ambassades du Guatemala. Voilà pour cette Yolanda et sa communauté qui se bat contre un projet minier qui menace leur environnement. Donc, un nombre important de signatures et ça fait pression. C'est bien. Et puis, pour parler d'Amnesty International section française, on est content par rapport à une hausse importante du nombre d'adhérents à Amnesty International. En effet, 6550 nouveaux membres ont rejoint Amnesty International France, et notamment grâce à des équipes de jeunes étudiants qu'on a embauchés. Bon, c'est du travail d'étudiants, hein. On les a formés sur Amnesty International. Et ils ont fait des opérations qu'on appelle face à face, de rencontres avec les personnes dans la rue, pour leur demander, pour leur présenter Amnesty, leur demander s'ils ne veulent pas devenir membres. Et donc, on a été descendu en dessous de 20 000. Et là, on a dépassé les 20 000 membres sur toute la France. et la progression continue. Donc, c'est, pour nous, c'est une excellente nouvelle. Hein.
Donc, ce n'est pas des jeunes que du département.
Non, non, c'est les 6550, ouais, ouais. C'est sur toute la France. Donc, on a 6550 nouveaux membres.
C'est super.
Donc, ça nous fait plaisir parce que plus on est nombreux, plus on a de force.
Et, de moyens de lutter.
De moyens de lutter, de force de pression. Et plus on peut faire signer de pétitions. Donc, rejoignez-nous. Hein. Odile nous a rejoints, ça nous a fait beaucoup plaisir, mais chacun, où qu'il se trouve, peut devenir membre en adhérant sur le site.
Mais c'est bien que les jeunes soient aussi formés et participent à ces actions de renseigner les gens.
Donc c'est bien. Et puis ces jeunes, ils rencontrent les groupes quand ils interviennent dans des villes où il y a des groupes, donc... ils sont en contact avec les groupes, ils font des actions en commun, ils parlent aussi des groupes qui existent. Voilà, parce qu'on peut être membre individuel, hein, recevoir. Alors, quand on est membre, une fois qu'on a adhéré, on reçoit une carte de membre et avec un code, si vous voulez, un numéro sur la carte. Et ce numéro nous permet d'accéder à ce qu'on appelle l'extranet, c'est-à-dire des renseignements qui concernent la vie du mouvement, mais qui ne sont pas tout publics, qui sont réservés aux membres d'Amnesty. Et d'ailleurs, sur extranet, les membres peuvent trouver les actions à faire et puis le matériel pour faire ces actions. Et donc, chaque membre peut aller, par exemple, imprimer une pétition papier et aller la faire signer à ses amis, à sa famille, à ses collègues de travail. Voilà. Donc, ça permet l'extranet de rendre chaque membre d'Amnesty, même s'il n'appartient pas à un groupe, le rendre actif. Mmh. Et en même temps, il y a des forums de discussion, on débat sur des thèmes que l'on voudrait qu'Amnesty aborde, sur des questions, etc. On peut interroger, par exemple, là, on a l'Assemblée générale à Saint-Brieuc, donc on va élire un conseil d'administration et un conseil des finances et des risques financiers. Donc ce sont des personnes qu'on va élire et donc on a leur nom, une feuille dans laquelle ils disent pourquoi ils se présentent et puis on peut leur poser des questions, voilà, pour préciser. Donc c'est l'extranet, c'est un outil des membres d'Amnesty qui nous permet de communiquer entre nous et puis d'imprimer du matériel d'action ou de commander du matériel d'action. Hein. Alors, tout le matériel d'action qu'on commande est gratuit pour les membres d'Amnesty et ça nous permet de diffuser au grand public nos actions, nos pétitions, etc., les affiches, voilà. Donc, quand on devient membre, on a accès à cet extranet. Mais si on n'est pas membre, on peut aller déjà sur le site d'Amnesty France et on a tous les renseignements sur la politique, sur les actions d'Amnesty, sur les campagnes mondiales, sur les pétitions en ligne hein, dont je vous ai parlé. Voilà, donc c'est le site qui est libre d'accès et qui permet à chacun, membre d'Amnesty ou pas membre d'Amnesty, de signer les pétitions et de s'informer sur l'état des droits humains dans le monde. Et puis, si vous devenez membre, donc vous remplissez un formulaire d'adhésion, vous avez une cotisation. Alors, la cotisation, elle est réduite hein, pour les chômeurs, pour les gens qui ont peu de revenus. D'ailleurs, on ne demande pas de justificatif hein, pour les étudiants, etc. Hein, je crois que ça revient à 2 euros par mois, quelque chose comme ça, la cotisation réduite. Puis vous avez une cotisation normale. Vous avez la cotisation, mais vous pouvez aussi vous abonner à la chronique, le journal mensuel d'Amnesty France. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, faire une adhésion de soutien ou des dons. C'est toujours bienvenu. Voilà. Donc, je crois que j'en ai fini. Alors, on va finir avec Renaud, parce que j'aime beaucoup la Mistral gagnante. D'abord, ça me rappelle mon enfance quand on allait acheter des bonbons au bazar du coin. Mmh. Et on achetait des Mistral gagnants, notamment. Et puis, je trouve que la mélodie de cette chanson est merveilleuse. Donc, voilà. bonnes vacances à tout le monde. Et donc, on se reverra à la rentrée de septembre pour notre émission mensuelle.
Pour la dignité. Merci Régis Coulanges pour tout ce beau travail chaque mois de reconstitution des actualités d'Amnesty. Et on écoute tout de suite donc Renaud. À bientôt Régis.
Au revoir Odile.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra. En serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots. Leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs. Qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot. Les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnant. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Ton rire, comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants.